Radio Kapi.
Le vaccin anti-Covid déjà à Kinshasa. La campagne de vaccination démarre la semaine prochaine, annonce le ministre de la Santé. À noter que ces premières doses concernent les personnes de plus de 55 ans, le personnel soignant et celles à risque comme les hypertendus et les diabétiques. Insécurité persistante dans le parc national des Virunga au Nord Kivu. 21 éco-gardes tués en 2020 alertent le collectif des organisations environnementales. Elles demandent l'évaluation de l'application du décret sur la création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées. Et puis, l'invité Jean-Paul Kapitula, coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni. Il explique ce que représente la Journée mondiale de la protection civile pour sa cellule, journée célébrée le 1er mars de chaque année. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC lance la campagne de vaccination contre le coronavirus dès la semaine prochaine. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier à Kinshasa lors d'une cérémonie de remise des premières doses de vaccins anti-Covid, soit 1,7 million de doses. Ces dernières sont entreposées au dépôt des vaccins et d'autres produits médicaux à Kinkole, dans la commune de Lancele, ici à Kinshasa. C'est un reportage de Jean-Pierre Elali Koko.
Ces premières doses d'AstraZeneca ont été officiellement remises au gouvernement par le truchement du ministre de la Santé. Ces dons de l'OMS et de l'UNICEF entrent dans les cadres de l'initiative COVAX, une initiative internationale visant à assurer l'égalité d'accès aux vaccins à travers le monde. Le ministre Étienne Ilongondo a rassuré les Congolais sur l'efficacité et la validité du vaccin.
Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à ces vaccins ici. Mais nous disons au peuple congolais ceci. Le gouvernement ne peut pas homologuer un vaccin qui va tuer le peuple congolais.
Avant d'appeler les Congolais à se faire vacciner.
Je demande aux Congolaises et Congolais de se faire vacciner. Même si la vaccination est volontaire, il faudrait plutôt penser à votre vie. La vie n'a pas de prix. Faites-vous vacciner.
Le représentant de l'UNICEF et de l'OMS ont, dans un élan de solidarité, promis au gouvernement leur appui à la campagne de vaccination. Notons que la RDC est le quatrième pays à recevoir les premières doses de l'initiative COVAX après le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. 20 autres pays africains se trouvent sur la liste des bénéficiaires.
Expédiés par l'intermédiaire de COVAX, ces vaccins réceptionnés par la RDC sont le fruit d'un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, CEPI en sigle, Gavi, l'UNICEF et l'OMS. Selon un communiqué conjoint publié hier par le gouvernement congolais et tous ses partenaires, cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivée qui se poursuivra dans les jours et les semaines à venir. D'autres détails avec vous, Alain Rongmushinj.
D'après ce communiqué conjoint, la RDC s'est prononcée pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca qui répond aux conditions de conservation existantes dans le pays, c'est-à-dire entre 2 et 8 degrés Celsius. Un plan de déploiement du vaccin contre la COVID-19 en RDC a été validé par le pays et approuvé par l'initiative COVAX. Ce dernier prévoit, sur la base de l'analyse des données épidémiologiques et des orientations de l'OMS, la vaccination de 20% de la population. Il s'agit notamment du personnel de santé qui représente 1% de la population, des personnes âgées de plus de 55 ans 6% et des personnes souffrant des comorbidités, soit 13%. La RDC est parmi les premiers pays d'Afrique à recevoir ces vaccins. La vaccination nous permettra de protéger et sauver des vies. Nous devons encourager la population cible à se faire vacciner, a déclaré le ministre de la Santé, Dr Étienne Ilongondo. C'est en décembre 2020 que le gouvernement de la RDC avait introduit sa demande de vaccin contre la COVID-19. Le ministère de la Santé, par l'entremise du programme élargi de vaccination PEV, assurera les activités de vaccination contre la COVID-19 en site fixe sur l'ensemble du territoire national. Selon toujours le communiqué conjoint, la première phase d'introduction du vaccin pour l'année 2021 ciblera les 4 provinces de la RDC les plus touchées par la pandémie, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central et le Haut-Katanga. Notez que la RDC attend au total 6 millions de doses de vaccins, souligne le communiqué.
Et à l'occasion de l'arrivée des premiers vaccins anti-Covid en RDC, l'Union européenne et ses États membres avec représentation à Kinshasa réaffirment aussi leur soutien au pays dans la lutte contre le coronavirus. Pendant ce temps, une montée des cas de coronavirus est observée ces derniers jours dans le Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Docteur Nzanzu Salita, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, parle des mouvements intenses des populations vers les pays frontaliers et Kinshasa via l'aéroport international de Goma. À cela s'ajoutent les mouvements internes en province. Docteur Nzanzu Salita explique au micro de Florida Kahambu.
La montée en flèche des cas de COVID-19 en province du Nord Kivu s'explique peut-être par deux phénomènes. Vous savez, la province a un grand aéroport international de Goma par où entrent plusieurs visiteurs. Et également, c'est un point de sortie pour les gens qui quittent les autres provinces, y compris la nôtre, pour se diriger soit à Kinshasa, soit dans d'autres provinces ou en dehors du pays. Alors, avec les tests de COVID voyage, c'est là que nous recrutons une bonne partie de nos malades pour la province et les autres malades sont aussi dans la communauté. Une autre stratégie, c'est que tous nos décès en province sont testés, en tout cas la plupart. Mais en même temps, la maladie se propage dans la population parce que les gens sont en mouvement de Goma à Beni, à Ituri, en Ouganda. En n'oubliant pas que les pays voisins ont aussi beaucoup de cas, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, même le Kenya. Or, nous fréquentons beaucoup ces régions et par moment, nous sommes contaminés par l'importation. C'est comme ça que nous justifions cette montée de l'épidémie en province Nord Kivu.
Notons que depuis le week-end dernier, la moyenne des nouveaux cas en province est de près de 20 cas de COVID par jour. Le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu insiste ainsi sur le respect des gestes barrières contre cette maladie, notamment le port des masques dans des lieux publics, le lavage des mains à l'eau et au savon, mais aussi éviter les lieux de rassemblement. Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, insécurité persistante dans le parc national des Virunga. Le collectif des organisations environnementales demande qu'une évaluation soit faite de l'application du décret portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées. Ceci afin de protéger les écosystèmes du parc national des Virunga, les personnels de l'ICCN, les communautés riveraines, mais également pour promouvoir le tourisme qui est un pilier du développement durable. Explication de Marc Marofimbo.
Dans la lettre de sa déclaration de ce 3 mars 2021, dont une copie a été réservée à la radio Kapi, ces collectifs des organisations environnementales s'inquiètent de la montée de l'insécurité dans les parcs nationaux de Virunga et dans les aires protégées où rien qu'à 2020, 21 éco-gardes ont été tués pendant l'exercice de leurs fonctions. Pour ces organisations environnementales, le parc national de Virunga étant un patrimoine de l'UNESCO et le site de Ramsar, il y a nécessité de la mise sur pied d'une force devant assurer notamment la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées et combattre le braconnage intensif de la faune qui s'opère par des nationaux, des étrangers ainsi que des bandes des groupes armés. Ainsi, elle demande au gouvernement d'évaluer ce décret, surtout qui a maintenant plus de 5 ans depuis sa promulgation. Au ministère de la Défense nationale, de l'Environnement, du Tourisme et l'ICCN, chacun a ce qui le concerne de faire également une auto-évaluation par rapport au rôle qu'il a à jouer dans la mise en œuvre du dit décret et à la MONUSCO d'appuyer les corps chargés de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles afin de combattre le braconnage qui nuit aussi du patrimoine mondial de la communauté internationale dont il est représentant en RDC pour ainsi contribuer à la sécurisation des populations civiles riveraines du parc national de Virunga. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, s'est officiellement séparée mardi de ses 255 agents retraités. La cérémonie a eu lieu à Lubumbashi en présence du ministre de Transport et Voies de Communication. Ce dernier a fait le déplacement de Lubumbashi pour la circonstance. Ces retraités sont de tous les réseaux de la SNCC à travers le pays. La délégation syndicale nationale a émis le vœu de voir d'autres agents éligibles à la retraite être aussi payés après des longues années passées au sein de la SNCC. Jean Gandou, au reportage.
La SNCC s'est séparée ce mardi de 255 agents mis en retraite depuis 2014. Bien que retraités, ils continuaient à percevoir leur salaire car leur décompte n'était pas encore payé. Pour cette opération, l'enveloppe globale est de 4 500 000 dollars américains. Ce fonds sont les fruits de la redevance logistique terrestre payée par les transporteurs routiers. Chacun des agents retraités a vu son argent être viré dans son compte. En outre, tous les retraités sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et conformément à la convention collective et vont continuer à bénéficier des soins de santé de la part de leur désormais ancien employeur. Avec ce départ, la SNTC se prépare au recrutement qui sera basé sur le rajeunissement du personnel, car à l'heure actuelle, la moyenne d'âge des agents est de 60 ans, a indiqué le ministre national des Transports et Voies de Communication qui a présidé la cérémonie. La délégation syndicale nationale a émis les vœux de voir le gouvernement de la République mettre à la disposition de la SNTC des moyens financiers pour que d'autres agents éligibles à la retraite soient aussi désintéressés, après des loyaux services rendus à la société pendant plusieurs années. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, le collectif de 100 jeunes innovateurs et inventeurs venus de toutes les provinces de la RDC et parmi lesquels 10 meilleurs projets avaient été primés en décembre 2019 s'est dit abandonné par le ministère de l'Industrie. Ils l'ont fait savoir hier dans une déclaration à Radio Capi. Ces derniers avaient formé un incubateur qui devait être accompagné pour concrétiser la vision du chef de l'État de créer 100 millionnaires à travers la RDC à l'horizon 2020. Les Nations Unies avaient promis de disponibiliser 9 millions de dollars à travers l'ONUDI, ce qui devait ramener le fonds déjà mobilisé à 11 millions de dollars. Cependant, une année après, aucun dollar n'a été versé à ces jeunes entrepreneurs, comme promis, affirme Tommy Panzou, porte-parole de ce collectif. Il est joint par Alain Rungmushinj.
100 jeunes inventeurs et innovateurs congolais, porteurs de projets innovants, se sont retrouvés le 18 décembre 2019 au fleuve Congo Hôtel sous l'impulsion du ministère de l'Industrie et de la Recherche scientifique. À cet effet, un panier de récolte a été fait et a pu récolter près de 11 millions de dollars, 9 millions venant de l'ONUDI et 2 millions de dollars venant du FPI par l'entremise de leurs représentants, séance tenante. Mais à ce jour, une année et deux mois après, aucun de ces francs, aucun de ces dollars n'a été versé entre les mains d'un seul lauréat masterclass. Nous demandons donc l'implication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution et faire entrer tous ces Congolais dans leurs droits.
En réaction, le ministre de l'Industrie affirme n'avoir reçu aucun fonds de l'ONUDI à la suite de la pandémie à coronavirus. Julien Paluku appelle ces jeunes à la patience et promet d'organiser une rencontre à laquelle ils seront associés avec l'ONUDI pour confirmer ses propos. Julien Paluku, joint par Alain Rung.
C'est d'abord un honneur parce que c'est le ministre de l'Industrie qui a réussi à identifier les jeunes inventeurs et innovateurs congolais à travers l'organisation de cette masterclass qui a eu lieu le 18 décembre 2019. Et l'ONUDI qui avait participé effectivement à cette grande cérémonie, avait prévu de bloquer 9 millions pour soutenir le gouvernement congolais dans la quête de la mise en valeur de l'intelligence congolaise. Malheureusement, comme on était en décembre 2019, deux, trois mois plus tard, c'est-à-dire en mars, il y a eu ce confinement, il y a eu ce virus qui fait la une à travers le monde, qui a empêché à ce que le processus puisse être déclenché. Comme vous le savez, l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. C'est de l'argent qui ne se donne pas de poche en poche. Ça suit un processus très long et donc jusqu'à aujourd'hui, c'est cette COVID qui a empêché à ce que nous n'aboutissions au déblocage de cet argent qui ne devrait pas être logé dans le compte du ministère mais qui devrait être géré par l'ONUDI à travers ses structures pour atteindre ses innovateurs, ses inventeurs congolais. Nous voudrions les appeler à l'apaisement et dire que d'ici là, nous pourrions organiser une rencontre entre nous, l'ONUDI et leurs représentants pour qu'ils se rendent compte qu'aucun sou n'a jamais été débloqué en faveur du ministère de l'Industrie.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes en Côte d'Ivoire. La campagne officielle pour les élections législatives de samedi 6 mars prend fin ce jeudi soir. Ce scrutin intervient 4 mois après la présidentielle qui a vu Alassane Ouattara obtenir un troisième mandat controversé en l'absence de la quasi-totalité de l'opposition qui avait choisi de boycotter et dans une ambiance tendue puisque 85 personnes au moins ont perdu la vie dans des violences. Depuis le 31 octobre, la scène politique ivoirienne a grandement évolué à tel point que ces législatives s'annoncent indécises, car cette fois, les opposants ont choisi de redescendre dans l'arène électorale et même de participer massivement. Les électeurs auront le choix entre près de 1500 candidatures validées par la commission électorale pour conquérir les 255 sièges de l'Assemblée nationale. En Birmanie, une nouvelle journée meurtrière pour les manifestants hier. Les forces birmanes ont de nouveau tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes mercredi contre les manifestants pro-démocratie dans plusieurs villes du pays. On dénombre au moins 11 morts et de nombreux blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état critique.
L'invité.
Le monde célèbre le 1er mars de chaque année la Journée mondiale de la protection civile. Que représente cette journée pour la cellule de la coordination de la protection civile dans la région de Beni? Réponse à cette question et à tant d'autres avec notre invité, le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, Jean-Paul Kapitula, est avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Kapitula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le 1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile. Pour vous personnellement, qu'est-ce que cette journée représente en tant que de la protection civile dans la région de Beni?
Le 1er mars, c'est la journée de la protection civile. On se souvient lorsque Dr. Georges Général, qui avait pour la première fois initié la protection civile à Genève, il a créé des espaces pour réserver à des personnes vulnérables lors des guerres et des catastrophes. Et parce que la plupart des fois, on pouvait se souvenir des blessés, on pouvait se souvenir des déplacés, mais on ne se souvenait pas de personnes vulnérables, de ceux qui ont été victimes. Et ça, c'est ce qui a poussé à Dr. Général Georges Saint-Paul à créer l'espace de Genève où on devrait garder ces personnes. Et aujourd'hui, à 2021, nous commémorons les 90e anniversaire de la protection civile au monde. C'est parmi les grandes organisations au monde actuellement qui s'occupe à la protection des civils et de leurs biens et de l'environnement. Et cela épargnant les civils, leurs biens et l'environnement aux catastrophes. Nous sommes clairs, c'est pas la mission de la police, c'est pas la mission de l'armée, mais plutôt c'est la mission de la protection civile à gérer les catastrophes, à prévenir les populations à tomber dans les risques des catastrophes.
Dans la région de Beni, quels sont les types de catastrophes que vous avez déjà enregistrées?
À Ville de Beni, on a plusieurs formes de catastrophes, vous le savez. On connaît toujours des inondations, on a des éboulements, on a des terres glissantes, on a des pentes, on a aussi ces massacres chroniques. C'est une guerre qui pousse les populations à ne pas s'épanouir, à ne pas évoluer à leurs occupations. Vous savez, la guerre est une catastrophe aussi. Et actuellement, c'est un problème sérieux. Vous le savez, il y a deux ans que nous avons connu la 10e épidémie à Ebola, qui s'est vue à l'est ici, où on a perdu plusieurs personnes. Mais actuellement, je vous dis, il y a encore une nouvelle épidémie qui est la 12e, qui s'est annoncée à zone de santé de Biéna et aujourd'hui dans la zone de santé de Katwa, ses voisins de la zone de santé de Beni. Et donc, nous avons préparé nos éléments aujourd'hui à faire la sensibilisation à la communauté pour faire face à cela. Et aujourd'hui, le thème mondial qui est retenu, c'est une protection civile forte pour préserver l'économie nationale. Vous savez, le monde entier a pris des mesures, des restrictions de voyage, des mesures de confinement, mais cela a un impact négatif à l'économie. Et donc, aujourd'hui, l'FMI a déclaré que l'économie mondiale est à baisse. Et donc, on n'est plus en mesure de faire face à des graves catastrophes. Et pourtant, la pandémie à Covid-19 continue. C'est comme ça que sur nos banderoles, vous allez lire, je porte mon cache-nez, je fais mon travail, je suis malade au Covid-19, je reste à la maison, je m'isole et je me fais soigner, je me fais examiner au Covid-19 et je voyage. Donc voilà des messages clairs que nous avons apportés à la communauté. Mais on n'a pas oublié un message qui dit « je me protège et je protège ma communauté contre le Covid » en respectant les mesures barrières, contre la maladie à virus Ebola, en observant les règles d'hygiène, contre les massacres, en dénonçant les suspects. Ce sont des messages que nous avons donnés et nous voudrions ensemble, avec la MONUSCO qui organise une cellule des affaires civiles, voir comment conjuguer afin que ce plan de contingence ait des plaidoyers, ait des personnes qui vont accepter de la mettre en application afin que nous puissions préserver réellement la population de Beni contre ces triples catastrophes que nous vivons. La pandémie à Covid-19, la maladie à virus Ebola qui est à la porte, mais aussi les massacres chroniques qui sont à Beni.
Mais monsieur Jean-Paul, la date même tombe bien, le 1er mars, où nous célébrons aussi le mois de la femme. Quel type de message vous, en tant que protégeur civil, pouvez adresser à la femme qui est aussi victime de ce genre de catastrophes?
Ah oui, c'est parce que peut-être Dieu a connu que c'est la femme qui est la berceuse de l'humanité. Et c'est pourquoi même le mois de la femme commence par la journée mondiale de la protection des civils. Et c'est la femme qui protège, c'est la femme qui nous garde. C'est la femme qui nous a mis au monde tous. Donc, je crois que la femme doit s'approprier et doit se sentir fière. Aujourd'hui, avec la femme, qui doit faire l'autonomisation de la femme, nous pouvons recommander aux femmes de faire mieux. Que ça ne reste pas toujours dans les jubilés, dans les marches, dans les festivités, mais plutôt que cette révolution que les femmes ont manifestée en réclamant aussi la participation égale de la femme et de l'homme dans la gestion de la chose publique, que cela soit manifeste. Qu'on trouve la femme dans des partis politiques, qu'on trouve la femme aussi dans des activités managériales ou entrepreneuriales, et qu'on trouve la femme partout dans la société, à l'école, et qu'on trouve aussi des professeurs femmes. Donc je crois que pour nous, la protection civile, nous devons encourager la femme. Et effectivement, parmi nous, on a des femmes. Nous allons leur demander, ceux qui n'ont pas parachevé les études, de continuer et de faire la lutte réellement pour que nous puissions avoir un monde égal où l'homme et la femme peuvent jouer les mêmes rôles, mais aussi tout en sachant que l'homme et la femme sont différents des sexes.
Monsieur Jean-Paul Capitola, nous vous disons merci.
C'est nous qui remercions la radio Capitola.
Le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni répondait aux questions de Marc Marofimbo. Ainsi prend fin ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rumushinj. Merci de l'avoir suivi.